10h51.
Chapitre 123. Le fusil. Sous les plus violents heurts du typhon, l'homme à la barre du gouvernail du Pequod, un os de mâchoire de cachalot, avait été plusieurs fois violemment projeté sur le pont par ses mouvements convulsifs, malgré les cordages de sauvegarde qui étaient attachés avec souplesse, de manière à donner du jeu à la barre. Dans une tempête aussi brutale, quand le navire n'est guère plus qu'un volant dans la partie que se livrent les coups de vent, il n'est pas rare de voir les aiguilles du compas se mettre par intervalles à tourner sans fin. C'était ce qui se passait à bord du Pequod. À chaque secousse, ou presque, le timonier n'avait pas manqué de noter l'affolante vélocité de leur ronde sur les points de la Rose des Vents. C'est un spectacle que peu de gens peuvent contempler sans une émotion très particulière. À quelques heures après minuit, la force du typhon avait à ce point diminué que, grâce aux efforts acharnés de Starbuck et de Stubb, l'un occupé à l'avant, l'autre à l'arrière, les lambeaux et fragments du foc, de la misaine et de la grand-une purent être détachés des épars et libérés, s'en allèrent tourbillonner sous le vent, pareil aux plumes que les souffles de la tempête arrachent parfois à l'albatros quand celui-ci affronte en plein ciel les brutalités de l'orage. Les trois voiles neuves correspondantes furent alors enverguées et arisées, et une voile de cap fut établie à l'arrière, de sorte que le navire put reprendre sa marche avec quelque précision. Et le cap qu'il devait tenir, dans la mesure du possible, est-sud-est, fut une nouvelle fois donné au timonier, car au plus fort de la tourmente, il n'avait navigué que selon les nécessités du moment. Mais comme il rapprochait maintenant le bâtiment le plus près possible de sa route, tout en gardant l'œil sur le compas, voici que paraît un bon signe. Le vent semble venir de l'arrière. Oui, la brise, contraire, est devenue favorable. Tout aussitôt, on brassa carré au chant joyeux de l'équipage. « Oh, le bon vent de poupe! Ohé, matelots! Nous filons gaiement sur les eaux !» La joie des hommes disait combien l'événement prometteur démentait promptement les funestes présages qui l'avaient précédé. Conformément à la consigne permanente de son commandant, qui lui enjoignait de faire rapport sans délai à n'importe quelle heure du jour sur tout changement sensible dans les affaires du pont, Starbuck, dès qu'il eut amuré les voiles de mauvais gré et la mort dans l'âme, prit machinalement la direction de la cabine pour en informer le capitaine Ahab. Avant de frapper à la porte, il s'arrêta involontairement un instant. La lampe de la chambre se balançait avec de longues oscillations d'un côté et de l'autre et brûlait capricieusement en jetant des ombres fantasques sur la porte fermée du vieil homme. Un mince battant dans les panneaux supérieurs était remplacé par des stores fixes. Dans les profondeurs souterraines de cette cabine isolée du monde régnait comme un silence murmurant, bien que le local fût cerné de tous côtés par le rugissement des éléments. Les fusils chargés, rangés dans leur atelier contre la cloison de l'avant, étincelaient, attirant le regard. Starbuck était un homme honnête et droit, mais, chose étrange, à l'instant où il aperçut les armes, une mauvaise pensée se forma dans son cœur, si bien mêlée, cependant, à d'autres intentions bonnes ou détachées, que sur le moment, il la reconnut à peine comme telle. « Il m'aurait bien tiré dessus cette fois-là, murmura-t-il. Oui. » Voici le fusil qu'il a braqué sur moi, celui qui a la crosse cloutée. Ah, je veux le toucher, le tenir. Étrange. Moi qui ai manié tant de lances meurtrières, il est étrange que je tremble ainsi. Chargé? Il faut que je voie. Oui. Et il y a de la poudre dans le bassinet. C'est pas bien. Mieux vaudrait la vider. Attendons. Je vais me guérir de tout cela, tenant fermement le fusil pendant que je réfléchis. Je viens en rapport pour faire état d'une brise favorable. Favorable, en quel sens? Favorable? Oui, puisqu'elle nous mènera à la mort et à la perdition. Favorable à Moby Dick, oui. Une bonne brise qui n'est favorable qu'à ce seul poisson maudit. Le canon qu'il pointait sur moi, c'est celui-là. Celui-là même que je tiens. Il m'aurait tué avec l'arme même que j'ai entre les mains. Et il n'hésiterait pas à massacrer tout son équipage. N'a-t-il pas dit qu'aucun grain ne lui ferait jamais amener ses voiles? N'a-t-il pas fracassé son sextant, l'instrument céleste? et dans ces eaux de tous les périls, ne cherche-t-il pas sa route à l'estime avec la seule aide des mesures souvent erronées du loc? Et au cœur du typhon, n'a-t-il pas juré qu'il n'avait nul besoin de paratonnerre? Faut-il donc souffrir docilement que ce vieil insensé entraîne tout l'équipage d'un navire avec lui à sa perte? Oui, si ce navire devait subir un accident fatal, cet homme deviendrait l'auteur d'un crime prémédité, l'assassinat de plus de 30 marins. Et sur mon âme, la mort est certaine si on laisse Ahab faire ce qu'il veut. Mais si, en cet instant, il était écarté, le crime lui serait épargné. Ah, il marmonne dans son sommeil. Oui, là, tout près, il dort.
Il dort?
Oui, mais il est toujours bien vivant et va se réveiller bientôt. Alors je ne pourrai pas m'opposer à toi, vieil homme. Raison, sermon, prière, rien, tu n'écouteras rien. Pour tout cela, tu n'as que mépris, l'obéissance stricte à tes ordres catégoriques, voilà l'air que tu respires. Et tu dis que les hommes ont prêté ce serment qui est le tien, et que nous sommes tous des Ahab. Dieu nous en préserve. Mais n'y a-t-il pas vraiment d'autre moyen? Un moyen légal? Le ramener prisonnier au pays? Quoi? Arracher des bras vigoureux de ce vieil homme sa robuste vitalité? Il faudrait être sot pour s'y essayer. Admettons même qu'on puisse le garrotter, le ligoter des pieds à la tête avec cordage et haussière, l'enchaîner aux bagues d'amarrage du plancher de sa cabine. Il serait alors plus hideux qu'un tigre en cage. Je serais incapable d'en supporter la vue, d'échapper à ses hurlements. Tranquillité, sommeil, là... Ah. Il serait plus hideux qu'un tigre en cage. Je serais incapable d'en supporter la vue, d'échapper à ses hurlements, tranquillité, sommeil et la si précieuse raison. Tout m'abandonnerait pendant le long, l'intolérable voyage de retour. Que me reste-t-il à faire? La Terre se trouve à des centaines de lieues, la rive la plus proche est celle du Japon interdit. Et me voici seul ici, en pleine mer. Deux océans et un continent entier me séparent du premier tribunal. Oui, voilà où j'en suis. Le ciel est-il un meurtrier quand sa foudre frappe un meurtrier en puissance pendant son sommeil, cassinant tout ensemble les draps et les chairs? Et serais-je alors, moi, un assassin, si... Et lentement, avec d'infinies précautions, jetant des regards de côté, il appuya le canon du fusil chargé contre la porte. C'est à la hauteur de cette arme que se balance le hamac d'Ahab, et sa tête est de ce côté-ci. Une simple pression du doigt, et Starbuck vivrait pour étreindre sa femme et son enfant une fois encore. « Oh Marie, Marie, mon garçon, mon petit, mais si tu vis encore à ton réveil, vieil homme, qui peut dire jusqu'à quelle insondable profondeur couleront bas dans une semaine le cœur de Starbuck et de tout l'équipage ?»« Dieu Tout-Puissant, où es-tu? Faut-il oser? Aurais-je l'audace? Le vent affaibli est tourné, monsieur. Les voiles de misaine et de grand hunier sont établies et arisées. Le navire tient son cap. À l'arrière, tous! Ah, Moby Dick, c'est ton cœur enfin que je saisis à deux mains! Tels étaient les mots qui fusèrent avec fracas du sommeil tourmenté du vieil homme, comme si la voix de Starbuck avait donné la parole au rêve demeuré longtemps muet. Le canon, toujours levé du fusil, tremblait contre le panneau de la porte, comme le bras d'un homme ivre. Starbuck paraissait lutter avec un ange. Puis, s'éloignant de la porte, il replaça le canon de la mort dans son râtelier et s'en fut. « Il dort profondément, monsieur Stubb. Descendez donc vous-même, réveillez-le et informez-le. J'ai affaire sur le pont. Vous savez ce qu'il faut dire. »